Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Pour parler icône, il fallait bien un lieu de prière. Pour cela, nous avons choisi l'abbaye Sainte-Marie du Désert, abbaye cistercienne à laquelle on arrive en ayant l'impression de s'enfoncer dans le silence. Pendant ces jours-ci, a lieu ici un stage de peinture d'icônes, l'occasion de découvrir cet art quasi liturgique. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin donc sur l'art de l'icône. Alors je reçois autour de ce plateau d'abord Dom Pierre-André Burton qui nous fait l'amitié de nous recevoir, qui est donc père abbé de l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Bonjour.
Bonjour.
Eva Marava Vlavianos, vous êtes iconographe grecque d'origine, enfin de confession orthodoxe. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien devant le micro. Autour du plateau et aussi il y a donc Josiane Larzabal, vous êtes ici en stage d'iconographie, bonjour.
Bonjour.
Et Valérie Labarthe, vous êtes organisatrice de ces stages d'iconographie en lien donc avec Eva Marava Vlavianos, bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer cette émission tout simplement peut-être par resituer l'endroit où l'on se trouve, puisque ça n'est pas anodin que Vivante Église se délocalise pour l'occasion. On était venu ici à l'occasion de Noël pour faire une émission sur le mystère de la naissance de Jésus, du Sauveur pour nous chrétiens, Pierre-André Burton, est-ce que vous pouvez à nouveau nous présenter ce lieu pour ceux qui ne connaîtraient pas et ceux qui entendraient parler de cette abbaye cistercienne pour la première fois?
Eh bien, c'est une abbaye qui est habitée par une petite communauté de moines, donc de tradition cistercienne, donc vivant une réforme monastique qui a eu lieu au XIIe siècle. Et nous sommes présents sur le site donc, depuis 1852, donc cela fait 165 ans, si je ne me trompe, que nous sommes ici. Et depuis le Concile Vatican II, et un peu plus tard, le monastère s'est progressivement ouvert et notamment a développé un service d'hôtellerie, et donc pour permettre à des fidèles de pouvoir venir participer, prendre part à notre vie de prière et de recueillement. Et puis progressivement, donc, des demandes nous ont été faites, notamment par Eva et son groupe d'élèves, pour pouvoir vivre dans un cadre de prière, de silence et de solitude, ces temps de stage pour écrire des icônes.
Alors, un temps de prière et de silence, puisque rappelez pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas ce qu'est une abbaye cistercienne, à quoi ressemble la vie des frères qui sont ici et combien de frères êtes-vous ?
Eh bien, c'est une vie rythmée par sept offices ou temps de prière, ce qu'on appelle l'office divin, donc qui est la prière commune de toute l'Église, et qu'au nom de l'Église, les moines ont pour charge de célébrer. Et donc nous sommes une communauté de priants, vivant, on essaye de vivre du travail de nos mains, et puis de l'étude personnelle, etc. Donc, mais notre vocation principale, c'est bien d'être un lieu de contemplation, donc un lieu de prière, d'intériorité et de vie fraternelle, puisque nous ne sommes pas des ermites, nous faisons le choix de vivre en communauté.
Combien de frères êtes-vous ici ?
Actuellement, nous sommes 12 frères dans la maison.
Et puis, dernière chose, vous l'aviez fait à Noël. Est-ce que vous pouvez situer le lieu, parce que le lieu est assez particulier?
Alors, le lieu, c'est dans un vallon de la Gascogne, assez isolé. Donc, nous faisons le choix, nous, la tradition monastique a toujours fait le choix de, entre guillemets, la séparation du monde, précisément parce que cette séparation du monde permet, ouvre ou en tout cas offre un cadre favorable à la vie intérieure par le silence, par la solitude qu'on ne peut pas trouver en ville. Donc nous sommes des villes, des moines de campagne, et non pas des moines ou des moines dans la ville, comme il y a pu y avoir pendant, il y a eu des recherches autour dans les années 80, comme dans la tradition des frères, fraternités monastiques de Jérusalem, qui eux ont fait le choix de vivre, d'implanter des communautés de prière au sein des cités. Notre tradition est plutôt celle de moines de campagne.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On mesure le privilège que l'on a d'être reçu ici. Et merci de nous accorder du temps, à nous et évidemment surtout aux auditeurs de Radio Présence. Donc ici a lieu en mai, semble-t-il, c'est une tradition maintenant dans cette abbaye. Et puis en octobre prochain aussi, enfin on y reviendra à la fin de cette émission. Donc un stage d'icônes avec Eva Marava Vlavianos, donc iconographe grecque que j'ai présenté tout à l'heure, donc de confession orthodoxe. Avant qu'on parle un petit peu plus de l'art de l'icône, Est-ce que vous pouvez nous dire, Eva Marava Vlavianos, peut-être pour nous mettre en bouche, comment vous présenteriez, qu'est-ce que c'est que l'art de l'icône ?
L'art de l'icône, c'est un bonheur, avant tout. Un bonheur d'être en relation permanente avec le Seigneur, avec les saintes personnes que nous sommes en train de peindre, et être aussi avec tous les gens qui participent au stage, avec qui on partage la joie. On partage tout. On partage même des fois le matériau, le pinceau, tout. Donc, ça nous remplit la vie et toute cette semaine qu'on va passer ensemble d'une très grande joie.
Alors, je disais en introduction aussi que c'est comme un art quasi liturgique. Est-ce que vous diriez que c'est... On y reviendra au long de l'émission, hein, mais est-ce que de fait, c'est l'art de l'icône, vous diriez que c'est quasi liturgique ?
Oui, tout à fait, puisqu'il fait partie de l'Église. Maintenant, bon, à l'Église orthodoxe depuis toujours, depuis le début. Et maintenant, comme on voit aussi dans les églises catholiques, après l'encyclique du pape Jean-Paul II en 1987, si mes souvenirs sont bons, qui a incité les catholiques de mettre des icônes dans les églises pour mieux prier.
Voilà, donc un art bien particulier, et en tout cas c'est le bon lieu pour vivre ça. Dernière question introductive, après je vous promets, on se lancera dans le grand bain, mais donc tous les stagiaires qui sont ici, donc entre autres vous, Josiane Larza Ball, pardon, j'essaye de ne pas écorcher votre nom, vous passez donc la semaine en résidence ici au monastère, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un stage d'icône, mais vous avez aussi une vie de prière et de contemplation pendant cette semaine.
Oui, tout à fait, je crois que c'est aussi un aspect très intéressant, parce que bon... Le travail sur l'icône, c'est un travail d'intériorité, mais ça se complète par justement la possibilité de participer aux offices avec les moines. Et je crois que c'est ça qui est très enrichissant, cette possibilité des deux choses.
Voilà, donc c'est presque une retraite. Alors, l'art de l'icône. Eva, en préparant l'émission, je suis tombé sur cette information, je ne le savais pas, que Saint-Luc, donc l'évangéliste Saint-Luc, un des quatre évangélistes chrétiens, oui. Donc serait le premier iconographe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette tradition ?
Alors, Saint-Luc, donc, il est considéré comme le premier iconographe. Selon la tradition, c'est lui qui, après la fête de la Pentecôte, donc il a reçu le Saint-Esprit avec les autres apôtres, il a peint les trois types de la Vierge. La Vierge de la Déisis, c'est-à-dire intercession, celle qui intercède pour notre salut avec saint Jean vers le Christ. La Vierge de la Tendresse, quand le Christ touche la joue de la Vierge, et la Vierge conductrice, quand la Vierge, avec sa main, elle fait un geste, elle nous montre le chemin vers lui. Et on dit, dans la tradition orthodoxe, on dit que la Vierge a posé elle-même pour que Saint-Luc puisse la peindre, et quand elle a vu, disons, le résultat de son travail, elle a été tellement satisfaite et elle a dit « Tous ceux qui s'approcheront de mes icônes, ils recevront une grâce. » Et c'est pour ça que, comme iconographe, nous sommes, je ne peux pas dire obligés, parce que c'est aussi presque comme la vue monastique, si vous voulez, on doit l'obéissance aux anciens maîtres, aux anciens créateurs, en faisant de petits pas de création. Mais à la base, il faut que nous soyons à leur trace pour que la grâce de leurs icônes passe à nos icônes d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que quand nous regardons une icône comme des simples spectateurs, l'icône finit par nous regarder.
Voilà, donc c'est comment dire, à vous entendre, les premières images, en tout cas celles que vous avez citées, sont presque validées par Dieu lui-même, enfin même si évidemment la Vierge Marie n'est pas Dieu. Hein. En tout cas, vous dites que c'est une tradition chez les orthodoxes, est-ce à dire que c'est une tradition qui est prise vraiment au sérieux, ou c'est une tradition orale, ou...
Ah non, c'est une tradition qui est là dans notre vie, elle est là ancrée depuis notre naissance, puisque déjà quand l'enfant est baptisé, il reçoit une icône à son baptême.
Non, je parlais de la tradition qui laisse entendre que Saint-Luc aurait peint les
premières
icônes. Ah
oui, non, c'est comme ça, c'est ainsi.
C'est considéré comme vrai
dans
la tradition orthodoxe.
Tout à fait.
Alors, et après Saint-Luc, avant qu'on parle peut-être du 4e au 7e siècle, puisque si j'ai bien compris, c'est une phase de développement important, qu'est-ce qu'il y a eu en fait entre Saint-Luc et le 4e siècle? Il y a juste quelques tentatives dans les églises des catacombes
Oui, tout à fait. Les catacombes de Rome, bien sûr, les symboles que les premiers chrétiens prenaient aussi pour se cacher, mais pour signifier qu'il était chrétien. Mais il ne faut pas oublier aussi que... Déjà à l'époque des apôtres, on a des icônes, c'est-à-dire des représentations saintes, parce que Saint Jean, quand il sortait pressé, il avait aussi un disciple avec lui qui s'appelait Lycomède, et chaque fois il le voyait partir quelque part. Et lui, ce qu'il faisait, Lycomède, il rentrait chez lui et il vénérait l'icône qu'il avait fait peindre de Saint Jean. Donc vous voyez déjà, ça avait commencé.
Ça existait déjà.
Et il faut pas oublier non plus l'histoire du roi Abgar, qui était très malade de Hédès, qui avait demandé, il avait la lèpre, il avait demandé au Christ de venir le guérir. Et comme le Christ, il savait que son heure approchait, il a envoyé il a pris un tissu, un linge, il a posé sur son visage et il a donné à son disciple, donc, j'ai oublié le nom.
Peu importe, allez-y, continuez.
Oui, et qu'il a amené au roi qui a été guéri.
Alors, donc ça, c'est ce que rapporte la tradition orthodoxe. Donc, à partir du 4e et jusqu'au 7e siècle, semble-t-il, c'est une grande phase de développement. Donc, on imagine que c'est suite à la reconnaissance par l'Empire romain du christianisme. Quand on dit que c'est le développement de l'art de l'icône, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que c'est là qu'on garde la première trace des icônes qu'on a encore aujourd'hui
ou... Bien sûr, on a commencé déjà par les influences de Fayoum, de la peinture de Fayoum, de l'Égypte. Le Fayoum, c'était de portraits funéraires que les gens mettaient sur le sarcophage de leurs morts et peints. Et comme ils gardaient une chambre pour les morts dans leur maison, ils communiquaient avec eux. Donc, ils croyaient à la vie après la mort. Et donc, cette première influence de cette peinture, c'était ces grands yeux qu'ils regardaient déjà vers le au-delà, qu'on trouve aussi dans les premières icônes. Et après...
Donc là, vous nous parlez des influences, des premières icônes autour du 4e siècle. Voilà, c'est ça. D'accord.
Voilà. Donc, et là, c'était la technique... On parlera de la technique plus tard, mais quand même là, juste pour vous dire que c'était une technique à la cire. Et après, vers le 8e siècle, quand on a passé à la technique à l'œuf, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord. Donc, quand on dit donc développement de l'art des icônes entre le 4e et le 7e siècle, ça veut dire que dans toute l'Église en fait chrétienne, on se met à avoir cette tradition de faire des icônes et c'est reconnu, encouragé.
Oui, elle a été surtout donnée dans la partie sud, le Mont Sinaï et Constantinople.
D'accord. Alors l'autre, vous aviez un commentaire, non peut-être Valérie Barthes, non. L'autre période sur laquelle il faut insister, donc c'est une période que l'on appelle la période iconoclaste, donc qui est une répercussion dans l'art chrétien d'une querelle théologique de l'époque et qui a quand même beaucoup marqué. Aujourd'hui évidemment peu de gens sont au courant, mais qui est importante dans le récit, dans l'histoire de cet art de l'icône. C'est vous, Josiane Larzabal, qui allez nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette période iconoclaste, quel a été le sujet du conflit à l'époque.
Eh bien, donc d'abord elle s'étale sur un siècle, à peu près de 730 à 840. Et elle correspond en même temps à... Ce sont des oppositions au culte des images qui se font jour, alors avec la période iconoclaste qui signifie destruction des icônes. Et en même temps, le monde juif et les musulmans aussi refusent la représentation humaine des personnages divins.
Alors juste expliquer quelle était la querelle théologique de l'époque et pourquoi ça a une incidence sur l'art chrétien.
La querelle, donc, c'est... lié à l'idée que... Enfin, à l'idée ou
à l'hérésie.
À l'hérésie, mais en fait, surtout je dis l'idée parce que je n'ai pas d'autre mot, mais que le Christ est de nature divine et non pas humaine, et donc il est irreprésentable. Voilà, c'est un des fondements théologiques de certaines hérésies.
Voilà, en tout cas qui avait cours à l'époque.
Qui avait cours à l'époque. Et à partir de là, justement, l'empereur byzantin Léon III l'Isaurien s'oppose, lui, à la vénération de l'icône du Christ et des saints. Donc, on va dans l'interdiction donc, des icônes. Et l'Église donc, résiste un petit peu. Mais la condamnation impériale provoque la destruction des icônes. Les moines sont aussi torturés, les monastères sont saccagés, les biens sont confisqués. Les seules icônes qui échappent un petit peu à cette destruction sont celles des régions qui sont éloignées de Constantinople. Donc les Grecs, les Coptes, le monastère Sainte-Catherine et la Géorgie. Voilà.
Voilà, en tout cas.
Et donc peu d'icônes demeurent de cette période iconoclaste. Voilà.
Voilà, donc évidemment, enfin, un conflit théologique qui a été résolu, puisque le Christ est de deux natures, divine et humaine, et donc l'Église, enfin, les autorités, on va dire, spirituelles et civiles ont fini par valider, d'une certaine manière, autoriser la représentation, les représentations donc, du Christ et autres saints. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot, avant qu'on parle des deux grandes traditions orientales et occidentales en matière d'art de l'icône, enfin de représentation chrétienne ou d'art chrétien. Vous vouliez dire un mot, Eva Marava Vlavianos, de l'impératrice Irénée. Ça a quelque importance. Donc au 8e siècle, il y a une décision qui est prise en fait, et qui vient trancher d'une certaine manière ce conflit.
Oui.
Et finalement,
c'est-à-dire les conflits étaient terminés à ce moment-là, et c'est elle que elle a demandé que les icônes qu'elles reprennent leur place, que les chrétiens puissent le vénérer. Comme avant, et chez les orthodoxes, c'est le premier dimanche de carême, du début de carême, que nous fêtons cette gloire de saintes icônes.
Alors ensuite, pour faire rapide, hein, parce qu'on va faire une première pause musicale, il y a en fait deux grandes traditions donc, dans l'Église. Enfin, en tout cas, il y a une grande tradition orientale qui a continué jusqu'à aujourd'hui, qui est donc la tradition de cet art de l'icône, donc l'iconographie que vous perpétuez donc, à votre manière. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comme la séparation qu'il y a eu après le schisme au XIe siècle, donc entre l'Église orthodoxe et catholique? Voilà, l'Église catholique s'est acheminée vers un art qui autorisait certaines représentations, et puis
oui.
L'Église orthodoxe, elle a fait un tout autre choix.
Elle est restée fidèle au vieux prototype, c'est-à-dire la Vierge de Saint-Luc, elle y va jusqu'à nos jours. Ça ne change pas. Et donc, chez les catholiques, après, c'est-à-dire l'Église a donné une certaine liberté aux peintres, et ils ont commencé à faire le tableau que nous connaissons, tous ces tableaux religieux que nous connaissons, avec ces belles mandones pleines de bijoux. Mais bon, il a eu une très grande influence, de toute façon, de l'art byzantin sur l'art romain. Hein, tout ça a donné plus tard un joli amalgame de la peinture italo-byzantine, que c'était très joli, que c'est très joli.
Voilà, en tout cas, donc deux grandes traditions en fait en matière de représentation et en matière d'art chrétien, donc un art, on va dire, qui penche plus du côté de l'humain, pour faire de manière très caricaturale, dans l'Église catholique, et donc dans un art qu'on peut qualifier d'occidental, c'est très réducteur probablement, et puis peut-être un art plus théophanique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec l'art byzantin et donc la tradition des icônes. On va faire une première pause musicale, et puis on va vous retrouver après pour vous nous racontiez comment on s'y prend pour faire une icône. Alors il ne s'agira pas de détailler tout ce qui se vit dans le stage, évidemment, mais on donnera quand même quelques pistes, et puis peut-être en quoi consiste cet art de l'icône.
Séparé de toi, tu fais cœur avec. grâce me suffit, je prends appui sur toi, sur toi dont j'exalte la parole. Tout est grâce pour ceux qui comptent sur toi. Je sais, mon Dieu, tu es pour moi, plus rien ne me fait peur.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin donc sur l'art de l'icône en direct de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, donc à quoi même pas une petite heure de route de Toulouse, donc dans cette abbaye cistercienne qui date donc du 19e siècle, que nous a introduit donc Dom Pierre-André Burton, qui est père abbé de cette abbaye, qui nous fait l'amitié de nous recevoir, donc qui est sur ce plateau. Et puis autour du plateau aussi, Eva Marava Vlavianos, iconographe grecque de confession orthodoxe, Valérie Labarthe, qui l'aide dans l'organisation de ses stages d'iconographie, et Josiane Larzabal, qui est en stage d'iconographie ici, puisque donc il y a un stage pendant toute cette semaine ici à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, stage donc d'icône, stage qui aura lieu aussi au mois d'octobre. On en aura toutes les informations pratiques à la fin de cette émission. Alors, peut-être pour introduire cette deuxième partie où on va essayer de rentrer un peu plus dans le concret de cet art de l'icône, je voulais qu'on parte d'une icône très célèbre, donc qui est l'icône de la Trinité de Roublev. C'est peut-être une des icônes les plus connues au monde. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la décrire, Eva Marava Vlavianos, et nous dire aussi peut-être pourquoi cette icône est comme ça, comme un symbole en fait de l'art de l'icône.
Alors, d'abord, Roublev, c'était un très très grand maître, Il est né au XIVe siècle, mais il a peint cette icône vers la fin. Hein, il a peint cette icône au XVe siècle. Il était élève de Théophane le Grec, qui travaillait en Russie. Et donc, cette icône-là, j'ai la chance de faire la connaissance des conservateurs des études byzantines de Moscou au Mont Sinaï il y a quelques années, et on a parlé justement sur cette icône, qui m'a dit et il m'a dit que de cette icône de l'époque de Roublev et de Roublev lui-même, il ne reste plus rien aujourd'hui. Il n'y a que le dessin, parce qu'elle a été tellement restaurée à travers les années, détruite aussi par des restaurateurs, détruite aussi par une espèce de risa qu'il avait dessus. Risa, c'est un couvercle qu'on met sur les icônes, comme ex voto, comme remerciement, qui était tellement lourd. Et donc, ce qui reste, c'est vraiment minime de Roublev.
Donc, qu'est-ce qu'elle représente ?
Elle représente justement les trois anges, les trois anges attablés, si on peut dire. C'était une icône qu'elle a été un tout petit peu très contestée au début, parce qu'elle n'est pas complète. C'est normalement c'est Abraham et Sarah qui manquent, puisque c'est la philoxénie.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc ce passage dans les Écritures où il est dit que trois anges visitent Abraham.
Visitent Abraham et Sarah. Voilà. Ils rassurent Sarah qu'elle aura un enfant. Et on dit que Sarah rit parce qu'elle était très âgée. Donc, elle a été considérée comme une icône pas très canonique et pas du tout canonique parce que ça manquait. Mais à la fin, elle a été acceptée. Donc, on a les trois anges qui sont autour d'une table. Et au milieu, bien sûr, ce n'est pas la tête du Christ, comme il y en a des gens qui pensent, mais il y a la tête de veau, puisque Abraham, il a fait tuer le veau pour que ce visiteur mange. Donc, il y a toujours des querelles aujourd'hui. Hein, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit.
Voilà, donc puisque ces trois anges sont censés représenter
voilà,
la Trinité.
Voilà, on ne sait pas. On pense que l'ange de gauche, c'est peut-être le Père, puisqu'il y a un bâtiment par-dessus sa tête qui va vers le haut. Peut-être au milieu, c'est le Christ, puisqu'il porte les couleurs du Christ, et après c'est le Saint-Esprit, puisqu'il y a aussi la couleur verte, mais on ne sait pas. C'est voilà, discussion de... byzantine.
Voilà, exactement. Beaucoup de mystères autour de cette œuvre, en tout cas qui est assez symbolique. Alors, est-ce que vous pouvez, non pas dans le détail, puisque on n'aura pas forcément le temps, et puis il faudra venir à un stage, nous expliquer en fait comment vous y prenez pour réaliser une icône, puisque si j'ai bien compris, en fait, c'est une, il y a comme une, enfin, il y a une longue tradition, ça vous nous l'avez dit en introduction, mais vous ne faites pas ce que vous voulez. Alors déjà, le bois, en fait, comment sont choisis les bois sur lesquels sont faits les icônes ?
Le bois doit être sec de 15 ans au moins. Ou si on peut trouver de vieux bois par des démolitions, c'est très bien aussi. Mais ça doit être un bois noble, c'est-à-dire du hêtre, du chêne, du tilleul, et sur lequel on fait une préparation, comme on l'appelle, un fondement. Pour les Russes, c'est le mot lefkas, puisque cette fondation, elle est blanche, donc sur laquelle on va peindre l'icône. On fait le dessin, on fait la dorure, et après, on commence la peinture, qui est composée avec des couleurs en poudre, et qu'on mélange avec le jaune d'œuf, qu'il reste conservé pendant un mois, parce qu'on lui ajoute du vinaigre de vin rouge dedans.
Et donc, il n'y a pas une infinité de couleurs aussi, si j'ai bien compris. Il y a une gamme, en fait.
Il y a une gamme assez.
Une douzaine de couleurs.
Assez simple. Oui.
D'accord, donc du bois. Et pourquoi est-ce qu'il faut que le bois ait 15 ans d'âge, en fait ? C'est quoi ?
Pour être bien sec, pour ne pas bouger.
D'accord, donc du bois, des couleurs, et puis donc vous lancez.
L'or ?
Alors l'or, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Puisque j'avais relevé quelques citations autour de l'or. On dit que c'est la couleur des couleurs. L'or est un feu qui brille dans la nuit. J'ai lu ça d'un certain Pindare. Pourquoi l'or, en fait ? Quelle est la valeur symbolique un
La
peu de
valeur
cette...
symbolique, c'est comme c'est un métal qui ne s'altère pas, qui brille. Voilà, ça représente la lumière divine. Donc, il est utilisé pour les icônes. Et si le peintre n'avait pas d'or, il avait l'argent. Ça, c'est le cas surtout pour des icônes russes. Il passait de vernis dessus pour le rendre doré, pour rendre l'argent, le métal argent, donc gris, en doré. Donc, c'est très, très spécial d'avoir l'or dessus.
Alors après, j'ai cru également comprendre en fait qu'il y avait un procédé pour la réalisation des icônes, c'est-à-dire qu'en fait, on part
du foncé
pour aller vers la lumière.
Vers la lumière,
alors,
c'est-à-dire
expliquez-nous.
On est dans les ténèbres avant de commencer à peindre l'icône. Et
c'est-à-dire on est dans les ténèbres du bois ou parce qu'on a fait
non,
une couche sombre
Non, dans
nos
ténèbres
en fait.
De notre âme, de
oui,
notre
oui, mais concrètement,
prière.
Sur la peinture, ça donne quoi c'est-à-dire que...
Ça donne les couleurs foncées.
Voilà.
Qu'on passe partout.
Tout est noir, en fait, au départ,
non,
c'est
non,
ça
Non, pas noir. Un habit qui est bleu, il sera bleu foncé, et il aura des éclaircissements dessus qu'on appelle les lumières, justement. Et donc, non, noir, on peint seulement le tombeau du Christ, là où il descend le Christ, plutôt, pour nous libérer de la mort, tout ce qui est à l'intérieur, qui montre l'intérieur, vous voyez. Et même ce n'est pas un noir noir, c'est un noir avec un tout petit peu de rouge dedans. Et de toute façon, le noir comme couleur, ça peut être aussi une couleur de l'espérance, puisque le Christ descend dans le noir pour nous libérer de la mort.
Donc,
c'est important.
Du bois, des couleurs, de la couleur or. Et donc, vous commencez par les couleurs sombres et petit à petit, vous arrivez aux couleurs de plus
vers
en plus claires.
Vers la couleur claire, que ça peut être couleur du même ton, c'est-à-dire du bleu, ou ça peut être une couleur, par exemple, rouge de la base, les lumières, elles peuvent être grises. Et ces techniques, elles s'appellent techniques lyriques, parce que ça chante. C'est très joli.
Combien de temps met-on pour faire une icône ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, on peut faire ça en une semaine, ou est-ce qu'il y a des moines
oui.
qui passent des mois et des
oui.
mois sur des icônes ?
C'est-à-dire que ça dépend toujours de la taille, de la complexité de l'œuvre. Et après, c'est le séchage, c'est-à-dire qu'il faut compter au moins un mois pour que tous ces matériaux sèchent bien. Et il ne faut pas oublier que l'œuf avec les couleurs, même s'il est verni, il mettra à peu près 9 ans pour qu'il sèche complètement, pour que tout se fixe. Et des fois, une couleur peut manger une autre et ça peut changer complètement la couleur de l'icône. Ça, c'est le cas de plusieurs icônes russes. Qui ont cette espèce de, si vous voulez, de transparence, que c'est le résultat d'une chimie mal passée, mal faite.
Oui, Valérie, vous vouliez réagir, Valérie
Labarthe.
Oui,
peut-être pour la technique, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand on peint un visage, on part de la couleur de la terre, c'est très important, la terre dont on a été façonné, et petit à petit, on monte les lumières sur le visage. Donc on va de la terre jusqu'à des lumières or. Mais il y a toute une étape de plusieurs éclaircissements dans le visage qui sont symboliques.
Alors, à propos du visage, ce sera ma dernière question peut-être sur l'aspect plus technique. J'ai cru comprendre aussi qu'on faisait les visages en dernier, c'est ça ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... j'avais mal compris ?
Non, pas forcément. On essaye de le faire en dernier, si vous voulez, parce qu'entre-temps, la main elle sera bien chauffée en faisant tout ce qu'il y a tout autour, tout ce qu'il y a autour du visage. Et après, on sera plus disposé, plus en état de peindre le visage correctement.
Alors, maintenant, quelques considérations donc, sur ce que représente cet art de l'icône et sur toute la... Enfin, j'allais dire la symbolique, mais c'est plus que la symbolique qu'il y a autour de cet art. On l'a dit au fil de cette émission, c'est comme un peu peindre l'invisible.
Oui.
Il y a un côté un peu liturgique. Vous disiez, en fait, au début de l'émission, c'est comme si, à un moment, c'est les icônes qui nous regardaient. Peut-être, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste des icônes, dont Pierre-André Burton, mais votre regard de moine sur les icônes, quand on dit que les icônes sont censées, que c'est un peu plus qu'un tableau, qu'elles sont censées un peu représenter l'invisible. Alors pour quelqu'un de l'extérieur, ça peut paraître être des grands mots. Qu'est-ce que dirait le moine que vous êtes ?
Je dirais que tout le cheminement spirituel du chrétien, c'est de découvrir peu à peu. Donc on évoquait en début d'émission la question du mystère du Christ, qui est à la fois donc ce qu'il se donne à voir quand on lit les évangiles. La première chose que l'on perçoit, c'est d'abord l'homme qui marche, qui rassemble des disciples, qui traverse la Galilée, qui monte jusqu'à Jérusalem, toute la vie, ce qu'on appelle la vie publique du Christ, jusqu'à sa mystère de sa passion. Et donc progressivement, donc l'Église, donc avec le témoignage des apôtres, nous ont invités, et les évangiles sont là pour cela, nous inviter à découvrir derrière le visage de Jésus homme la présence du Christ. D'où dans le vocabulaire, enfin plus que dans le vocabulaire, dans notre manière de parler de Jésus, c'est Jésus Christ. Jésus c'est son prénom et Christ c'est sa dignité. Donc Jésus le Messie, Jésus l'Oint, Jésus l'Envoyé, Jésus révélateur de la présence de Dieu en notre monde. Donc il a fallu presque 4 siècles d'histoire de l'Église pour arriver à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la confession que Jésus, donc l'affirmation théologique, que Jésus n'est pas simplement un homme, mais qu'il est aussi un homme qui révèle Dieu.
Et donc
le cheminement de
l'icône,
c'est d'une certaine manière ce même cheminement spirituel, pas sur le plan théologique, mais sur le plan artistique, mais les deux vont se répondre. Donc l'icône, elle est destinée ou au service de faire apparaître cette dimension spirituelle ou divine que le Christ porte et que tout chrétien porte en lui depuis le jour de son baptême. Donc contempler une icône, c'est d'une certaine manière faire ce chemin de la réalité visible, Jésus qui se donne à voir, qui a vécu avec nous, parmi nous, les saints qui ont vécu, qui parmi nous aussi, et donc à travers ce visible qui se donne à voir, accéder à la réalité invisible. Cette réalité invisible, c'est le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Peut-être Eva Marava Vlavianos, est-ce que le fait que les icônes soient, comment dire, vous disiez très un peu hiératiques, c'est-à-dire que la peinture soit très symbolique, en fait, ça aide à rentrer dans ce, ça aide à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire que
oui.
D'une certaine manière, j'allais dire, je fais toujours la comparaison avec la liturgie, je ne sais pas si c'est très heureux, mais il y a quelque chose qui existe, et puis autour de ça, en fait, quelque part, on peint, et comme on médite ou comme on prie.
C'est... Tout à fait, parce que tout ce qui est dit à la liturgie, à l'Église, c'est reporté sur les icônes. Hein. Les icônes sans la liturgie, sans les livres sacrés de l'Église, elles n'existeraient pas.
Je voulais dire par là juste qu'en fait, c'est comme si vous aviez quelque chose dont vous étiez tributaire, quelque part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, en fait. De...
Non, on ne peut pas faire ce que nous voulons. C'est-à-dire, pour les yeux, on disait tout à l'heure pour le visage, les yeux sont très spécifiques, ils ont des formes spécifiques. Et quand on pose les yeux sur un visage, il faut toujours se souvenir de paroles de Saint Jean, qu'il disait « Dieu va vous ouvrir les yeux en les vidant de la convoitise ». C'est très important. C'est très lié, très lié.
Valérie Labarthe, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être que c'est important de dire que l'icône, ce n'est pas un langage. Donc, c'est plus une émotion. Donc, c'est à la différence de quand on lit un texte de l'Évangile, on va se référer à une histoire. Là, on est directement en lien avec une émotion, donc une contemplation, qui est un peu une parole qui va directement au cœur.
Voilà, donc il faut venir voir l'exposition à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, qui est la cour donc, de mai à octobre, pour découvrir un peu plus l'art de l'icône. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après, je vais vous demander peut-être comment ça nourrit votre vie de foi, de faire des icônes comme ça depuis des années, ou certaines depuis plus récemment, pour inciter peut-être aider nos auditeurs à prier devant des icônes, ou à les inciter à venir faire un stage.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Présence dans la cité mariale 96. Vivante Église. Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc ce matin, si vous nous prenez en cours de route, en direct de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, donc abbaye cistercienne, à moins d'une heure de route donc de Toulouse, où donc nous sommes reçus, puisque ici a lieu un stage d'icônes, de réalisation d'icônes, pendant une semaine, 10 jours, traditionnellement à l'occasion du mois de mai. Et donc autour du plateau, il y a Eva Marava Vlavianos, qui est donc iconographe grecque et qui donne ce stage, accompagnée de Valérie Labarthe, qui l'aide pour l'organisation de ces stages, et de Josiane Larzabal, qui est en stage ici, et puis de Don Pierre-André Burton, qui est donc père abbé de l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Alors à la fin de cette émission, et peut-être plus rapidement, je voulais vous demander, pour peut-être aider à entrer encore un peu plus dans cet art ou donner envie de venir suivre un stage avec vous ou avec d'autres, nous dire un petit peu ce que ça provoque en vous, quel chemin intérieur ça vous fait faire les unes les autres. Mais avant ça, vous vouliez, Eva, nous dire, il y a quelques conditions pour qu'un iconographe soit bon, on va dire disposé à peindre des icônes. Alors quels sont ces critères ou ces dispositions particulières?
Alors l'iconographe, enfin pour quelqu'un qui s'appelle iconographe, doit avoir fait quelques études quand même de peinture ou avoir une petite notion de qu'est-ce que c'est la peinture. Il doit comme caractère être humble, doux. Il doit prier avant peindre, il doit pardonner avant peindre.
C'est-à-dire qu'il doit être réconcilié avec Dieu d'une certaine manière.
Ah oui, tout à fait, être en paix avec lui-même, tout à fait. Sinon, on peut pas. On peut pas sortir cette douceur de la vie, cette douceur de notre foi sur une icône si on est vraiment agressif, agressé et sans pardonner. Donc, notre vie doit être imprégnée de la parole de Dieu, c'est quand même très important. Et simple, notre vie aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que les anciens peintres, ils étaient très, très contrôlés par l'Église quand ils se mettaient à faire leur propre Christ et leur propre Vierge. Ça, ils lui disaient non, ce n'est pas ça du tout. Donc, pour se mettre à créer des icônes, il faut quand même avoir travaillé beaucoup, beaucoup sur les traces des anciens maîtres et pouvoir être capable de donner les corps spirituels que nous peignons. C'est très important, ça. C'est-à-dire enlever tout ce qui est inutile aux saintes personnes. Par exemple, la Vierge est toujours avec les yeux ouverts, et tous les saints, parce qu'ils n'ont pas besoin de fermer leurs yeux pour dormir. Ils ont besoin de nous écouter toujours, en permanence, à nos problèmes. Donc, écoutez plutôt nos problèmes en permanence. Voilà. Donc, ils n'ont pas des cils puisque leurs yeux ne bougent pas. Ils n'ont pas des dents, on ne voit pas leurs dents parce qu'ils n'ont pas besoin de manger. Ils sont nourris par la parole de Dieu. Donc, ils sont des choses que il faut quand même il faut faire attention.
Alors, est-ce à dire que les peintres d'icônes en fait sont, enfin c'est une profession un peu réglementée. Il y a une forme d'accompagnement spirituel de l'Église et il y a une autorisation d'être peintre d'icônes.
Ah oui. C'est-à-dire, en principe, un iconographe est considéré iconographe quand il a peint l'icône donc de la Pentecôte. Donc, il reçoit la grâce et que son spirituel lui dit « Vas-y, tu es béni ». Bon, aujourd'hui, ça se fait pas ça, puisque on a la possibilité de faire des études et d'être diplômé. Donc, mais quand même, l'Église est là. Et on ne peut pas faire des icônes si on n'est pas croyant. On fera des icônes, mais elles seront sans âme, elles seront vides. Elles seront jolies, mais vides.
Alors vous, ça fait donc 45 ans que vous faites des icônes. Évidemment, vous n'allez pas résumer 45 ans d'expérience de peinture des icônes, ni nous révéler tout de votre vie spirituelle, mais est-ce que cet art de l'icône vous a aidé à cheminer avec ou vers le Christ? Et si oui, qu'est-ce que vous pourriez nous partager de cela?
Oui, je peux dire que ça m'a ouvert encore plus les yeux, vous voyez, parce que bien sûr, en Grèce, les icônes sont partout, hein, à la maison, bien sûr, les églises sont archi pleines, mais bon, on vit avec elle, mais approfondir et sentir des autres sentiments plus profonds, plus joyeuses, mais qui viennent des icônes, qui viennent de Dieu, c'est que les icônes qui les donnent ou qui m'ont donné.
Voilà,
ça, cette joie de vivre, oui.
Du coup, vous direz quoi? Les icônes, on vous en donnait cette joie de vivre? Vous direz c'est quoi? C'est cette joie de vivre ou c'est la joie de l'Évangile, c'est ça ou c'est...
Tout. C'est-à-dire, en introduisant davantage dans l'Église, dans les Évangiles, en retour, je reçois cette joie de vivre que, des fois, ça arrive même dans des grandes difficultés. La joie est là.
La joie et la paix?
Et la paix, oui.
Voilà, donc ça, c'est quand même deux critères, normalement, de la vie dans l'esprit. Alors, Valérie Labarthe, vous, est-ce que vous pouvez nous partager brièvement, ça ne fait pas 45 ans que vous faites des icônes, mais qu'est-ce que vous diriez sur cet aspect plus de témoignage? Qu'est-ce que l'art des icônes vous a apporté?
Pour moi, l'art des icônes, c'est d'abord une grande retenue. Donc, on doit peindre avec beaucoup de concentration, beaucoup d'écoute et d'attention. Donc, ça, c'est très important. Donc on doit mettre un peu de côté son impulsivité, sa création et être humble devant le modèle qu'on peint. Moi, ça m'a permis de connaître certains passages de l'Évangile, la vie de certains saints et d'être, de mieux connaître la vie du Christ.
Voilà, pour le premier aspect que vous soulignez, c'est-à-dire que vous direz que ça aide quoi à ordonner ses émotions d'une certaine manière ou... Parce qu'on est obligé un peu de s'effacer devant cette tradition qu'on décrivait, c'est ça?
Oui, tout à fait. Être dans la contemplation, dans la retenue, dans l'écoute, beaucoup. C'est aussi entre nous une vie communautaire, quand même, quand on écrit une icône. On est une dizaine à partager, donc pendant 8 jours, le même quotidien et l'attention aux autres.
Pour finir, vous, qu'est-ce que vous diriez comme partage, Josiane Larzabal? C'est difficile, mais qu'est-ce qui vous viendrait?
C'est d'abord, je crois, tout un travail d'intériorité. Moi, je m'en sers comme ça pour approfondir un peu plus certaines connaissances, certains passages de l'Évangile peut-être. Mais en même temps, c'est aussi la découverte du monde orthodoxe, qui est une chrétienté, mais différente de la chrétienté catholique. Et ça m'apporte beaucoup que de pouvoir comparer ces deux formes de foi, l'une qui est plus exubérante que l'autre, et bon, qui peuvent très bien se compléter. Et actuellement, je crois que c'est le chemin quand même qui est suivi même par les rencontres actuellement entre ces deux églises chrétiennes, tout simplement. Et je trouve que c'est une ouverture très importante, personnelle, et en même temps pour le monde.
Voilà, formidable. On va peut-être laisser le mot de la fin. Non pas, vous n'êtes pas forcément l'accompagnateur spirituel de ces retraites, dont Pierre-André Burton, mais peut-être au regard de ce qui s'est partagé ici, enfin ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'est-ce qui a résonné dans vos oreilles, dans votre cœur de moine?
Bien, je dirais que nous sommes... Enfin, je dis nous parce que je ne suis pas. C'est la communauté qui accueille notre communauté de frères. Donc heureux d'offrir à ces chrétiens en recherche un lieu qui leur permette de vivre cette expérience qui est vraiment une expérience de. Bon, moi j'utilise un peu barbare, mais le mot de l'ascèse. Finalement, l'écriture d'icône, c'est un chemin de dépouillement de soi pour faire advenir quelque chose qui nous dépasse, qui est plus profond, qui est au plus profond de nous, qui est le mystère de la présence de Dieu dans nos vies. Et puis j'aime beaucoup cet aspect de l'art iconographique qui consiste à partir du sombre pour accéder à la lumière. C'est finalement ça la vie du chrétien. C'est passer des ténèbres de la mort, les ténèbres du péché, à la lumière de Dieu. Donc c'est bien tout l'enseignement de saint Paul dans ses épîtres, et puis saint Jean aussi. Hein. Le Verbe s'est fait chair, la lumière est venue dans notre monde pour l'éclairer. Eh bien, c'est de rendre ce qui nous rend heureux, c'est de rendre possible ce chemin de vie spirituelle, permettre à une dizaine, quinzaine de personnes de faire ce chemin, d'advenir ou de se laisser revêtir de la lumière qui est celle que le Christ a voulu, dont le Christ a voulu nous revêtir depuis le jour de nos baptêmes jusqu'au jour où, dans la gloire, nous paraîtrons devant lui.
Voilà, en tout cas, ça fait rêver. Je ne sais pas à quoi ressemblerait une émission de radio qui serait fidèle à cette tradition orthodoxe de s'effacer devant ses invités ou devant le sujet. Peut-être qu'il y aurait un peu moins de bruit ou de blabla, je ne sais pas. Et voilà, il faudra inventer ça. En tout cas, merci beaucoup. On donne quelques informations pratiques pour finir. Donc, cette exposition qui est ici donc à l'abbaye Sainte-Marie du Désert donc jusqu'au mois d'octobre, donc une quarantaine d'icônes ou de panneaux qui sont présentés pour représenter l'histoire en fait et l'art de l'icône, c'est bien cela. Et puis donc ce prochain stage donc avec Eva Maravalvianos en octobre prochain, puisque donc c'est une tradition ici de faire des stages de peinture d'icônes en mai et en octobre. Merci beaucoup à nos invités, merci beaucoup à Don Pierre-André Burton de nous avoir accueillis ici dans les parloirs de son abbaye. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.